un chef d'entreprise que nous avons d'autant plus de plaisir à recevoir qu'il a pour habitude d'être plutôt discret. Mais pour Somme Média, il va nous ouvrir les portes de son entreprise. Bertrand Vigneron est à la tête de Wesco, dont le siège se trouve à Cerizay. Il est notre invité ce mardi dans Média. Un plaisir d'autant plus fort que nous allons sans doute quelque peu retomber en enfance, et qui s'en plaindrait, n'est-ce pas, messieurs? Fabien Gouraud pour le Courrier de l'Ouest, Dominique Guinfolo pour la Nouvelle République. Bonjour Fabien, bonjour Dominique.
Bonjour.
Bonjour Bertrand Vigneron. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Un petit coup d'œil dans le rétro, si vous le voulez bien, puisque cette aventure remonte à déjà plusieurs années. Vous fêterez bientôt vos...
Donc, 50 ans.
Ah, c'était une question piège, voilà. Ouais.
En 1975.
Et exactement. C'est votre mère qui a quelque part lancé ce projet?
C'est ma mère qui a initié effectivement l'entreprise qu'on connaît aujourd'hui. Elle s'était arrêtée de travailler à l'époque quand je suis né. Les trois premières années, elle m'a gardé. Et puis, m'a mis en école maternelle et ne voulait pas rester femme au foyer. Elle voulait... retravailler. Et donc, avec une autre amie, elles ont eu l'idée de vendre des matelas pour faire la sieste dans les quelques kilomètres autour de Cerizay. C'était ça l'ambition à l'origine. Et puis, n'étant pas commercial, une entreprise ne tourne pas comme ça. Mon père, qui était multicarte, est intervenu et les a aidés à développer l'entreprise. Voilà, il y a eu plusieurs étapes comme ça qui ont abouti à l'entreprise que vous voyez aujourd'hui.
Et vous qui avez grandi avec cette entreprise, alors petit, j'imagine que déjà vous étiez dans ce contexte de jeu. On rappelle ce que vous faites exactement?
Alors c'est assez vaste parce que en fait effectivement c'est ça tourne autour de l'univers de l'enfant, du tout petit, puisque l'entreprise s'est spécialisée dès le début sur l'accueil en maternelle et en crèche. C'est resté notre principal créneau, donc les enfants de 0, on va dire, jusqu'à 8 ans, qui sont principalement notre marché. Et c'est tout le matériel pour les professionnels de la petite enfance à l'origine.
Alors le matériel pédagogique,
alors,
quelque part.
Il y a de tout, en fait, c'est pour ça.
Mais voilà, on ne sait jamais trop comment vous définir, c'est vrai.
Il y a 18 000 produits référencés au catalogue, hein, puisqu'on les vend par correspondance depuis l'origine, qui vont du matériel pour faire la sieste, du matériel pour le change, du mobilier, du matériel pour la motricité, développement moteur des enfants, du loisir créatif, des livres, tout ce qui touche en fait un enfant. Pour équiper par exemple une crèche de A à Z, on a à peu près tout le matériel qu'il faut, jusqu'aux poubelles à couches, enfin, etc., etc.
Et tout le matériel est de conception native de l'entreprise. Vous avez tout créé de A à Z?
Alors non. Il y a 60% des produits qui sont dessinés par nos équipes de créateurs. 40% donc qui viennent en complément, qui sont ce qu'on appelle des produits de négoce, qui viennent compléter notre offre. Wesco fait par exemple beaucoup dans la motricité, dans le mobilier, etc. Et puis par exemple pour le loisir créatif, c'est pratiquement que du négoce. On ne fabrique pas de peinture, ni pinceau, ni etc., etc.
Ça a conduit à une bonne dose de créativité. Donc, est-ce que c'est une des difficultés que vous pouvez rencontrer de trouver des profils justement adaptés à ces recherches, en fait, pour innover chaque année ou presque dans ce domaine-là?
Alors, bon, moi, pour raconter la petite histoire, moi, je suis designer de formation. J'ai fait une école à Paris en 5 ans, puis j'ai travaillé un petit peu à Paris. Mon père voulait maîtriser ses collections, justement. Et j'ai accepté de revenir donc à Cerizay en lui disant à l'origine que je revenais pour 5-6 ans, le temps de mettre tout ça en place. Et puis donc ça fait 30 ans maintenant. Donc en tant que designer, j'ai peut-être un peu moins de difficultés que certains à trouver des créas. Surtout qu'il y a aujourd'hui c'est un métier qui est quand même plutôt bien démocratisé. À l'époque c'était pas évident. Hein, être designer, c'était peu connu. Aujourd'hui, il y a une école, par exemple, à Nantes qui est très très bien, l'école de Nantes des Pays de la Loire, qui est une très très bonne école, dont la plupart de mes créatifs viennent aujourd'hui.
Du coup, c'est quoi la touche Wesco? Qu'est-ce que vous essayez d'apporter quand vous créez un nouveau produit, un nouveau design? Qu'est-ce que vous essayez d'apporter de nouveau?
Alors, de nouveau, c'est jamais évident d'apporter des choses vraiment nouvelles, hein, mais... Je pense qu'on essaye de faire des produits les mieux possibles pour nos clients. Vraiment, quand on dessine un produit, on essaye de faire attention à tout, son esthétique, son utilisation, son ergonomie. On fait des bons produits. On s'est un peu mis sur un marché plutôt moyenne, haut de gamme. Et donc, on essaye d'offrir le meilleur pour nos clients et pour les enfants qui vont les utiliser.
Vous le disiez, vous n'étiez pas forcément prédestiné à prendre la succession de vos parents. Quand a eu lieu le déclic, en fait ?
Alors, j'étais pas prédestiné, mais en tant qu'enfant unique, ils n'ont pas eu tellement de choix s'ils voulaient une succession familiale. Effectivement, je vais être honnête, j'avais pas vraiment envie de revenir vivre.
En bocage, allez.
J'étais à Paris, bon, ouais. Maintenant, à 53 ans, je suis très heureux d'être revenu dans la région. Je pense pas que j'aurais aimé rester sur Paris, mais en tout cas, je suis revenu dans une entreprise qui était ce qui était très, très artisanal. On va dire un petit peu, quand je suis arrivé, il y avait aucun ordinateur, des machines à écrire, etc., etc.
Ah oui,
et donc, moi, à Paris, j'avais déjà... c'est-à-dire que, bon, je suis pas non plus tout jeune, donc j'ai quand même vécu l'arrivée de la
formation. On va dire à 53 ans, fin d'année.
Voilà, 53 ans, le 29 septembre. Je suis arrivé, mais à Paris, déjà dans les agences, il y avait quand même quelques ordinateurs. Bon, donc je suis arrivé dans une entreprise qui était... c'est-à-dire sous-informatisé, qui fonctionnait, mais qui...
la base était là.
C'était pas évident. Donc, j'ai commencé à vouloir amener toutes ces choses-là dans l'entreprise. Quand on est jeune, on n'a pas non plus toujours la diplomatie pour pouvoir...
Alors justement, ça partait dans tous les sens. Vous aviez plein d'idées.
C'était pas évident, oui. Ça n'a pas été évident au début. Et puis, petit à petit, ça s'est structuré. Ensuite, on est parti... on était là au centre de Cerisay. Il y a eu trois établissements. Il y a eu un premier qui était vraiment, pour ceux qui connaissent Cerisay, côté de la boulangerie, là, vers la poste. C'est la toute première, il y avait trois personnes. Et puis après, on est parti vers la gare, au 15 avenue de la gare, justement, où là, il y a eu un entrepôt un peu plus conséquent. Et puis l'entreprise grossissant, les semi-remorques bloquaient le village, donc ça commençait à devenir difficile de continuer à rester ici. Et il y a eu cette opportunité de partir là où on est aujourd'hui, en fait.
Alors, il y a le siège, donc à Cerisay, on en reparlera puisque vous êtes en train de vous agrandir. Il y a une autre unité à Sablé-sur-Sarthe, et il y a aussi alors deux autres unités en Asie, au Canada.
Oui, alors donc...
Alors, c'est quoi ces unités?
Donc, mon père déjà a tout de suite, dès le début de l'entreprise, voulu vendre ses produits en dehors de la France. Donc, on a commencé à exporter via la Belgique, ensuite Pays-Bas, Allemagne, etc. Angleterre.
Mais ça a vraiment été une de vos marques, dès le départ.
Et ça s'est étendu. Moi, j'ai amplifié l'exportation. Et il est devenu rapidement évident qu'il était difficile de Cerisay de livrer la planète entière. Donc, on a une unité, effectivement, en Asie, qui est basée en Thaïlande et qui est là pour le marché asiatique. Et puis, une au Canada, dans un petit village. Ça ressemble beaucoup à Cerisay, d'ailleurs. C'est autrefois à Cerisay, donc il y avait Eliès Automobile. Au Canada, c'est un fabricant de bateaux, mais c'est à peu près la même taille de village, et c'est assez marrant. Donc à Princeville, au Canada, oui, pour le marché nord-américain. Ensuite, une unité à Sablé-sur-Sarthe qui, historiquement... il y a eu une rencontre à Wesco qui a fait un déclic, c'était des psychomotriciens, et donc c'est là où on a développé, vous savez, ces gros blocs de mousse sur lesquels on fait de la motricité. Et tous les fabricants de mousse, les gros fabricants de mousse, se trouvent dans les alentours de Sablé-sur-Sarthe. Comme ça représentait énormément, 60% de l'activité de l'entreprise à cette époque-là, c'était assez dangereux, puisqu'on était lié à ces entreprises, et donc on a décidé de créer notre propre unité de production qui s'est basée là-bas, à proximité de ces grands mousseurs. C'est pour ça que...
Ces blocs de mousse, en fait, quelque part, ils avaient succédé au matelas imaginé par votre maman ?
Je pense pas que ma maman ait inventé les matelas, mais en tout cas, non, effectivement, c'était toujours les mêmes matériaux, déclinés dans des formes, par les pipettes de différentes tailles, sur lesquelles les enfants évoluent et développent leur motricité. Et c'est comme ça vraiment que Wesco s'est lancé.
Donc finalement, votre développement, c'est un peu calqué sur les évolutions dans l'accompagnement des jeunes enfants, finalement, dans l'accompagnement dans les crèches. Vous êtes calqué un petit peu sur cette prise en compte-là.
Oui,
en
fait. Tout à fait. Et moi, quand je suis arrivé, parce que une des chances de l'exportation, c'est que on connaît tous nos confrères dans le monde entier. Donc, il y avait des pays qui étaient déjà aussi très en avance sur la France à cette époque-là. Moi, quand je suis arrivé, j'ai été très impressionné par ce que faisaient les Anglais, notamment. Et j'ai développé les gammes pour offrir de plus en plus de produits aux crèches et aux écoles maternelles.
Ces produits, c'est seulement du design ou il y a des aspects médicaux, scientifiques, pédagogiques?
Alors le design, c'est la petite couche qui permet aux produits d'être sympathiques, ergonomiques. Voilà, et puis qui donne aussi la touche Wesco, hein. Un produit Wesco normalement se reconnaît par rapport aux autres, mais à la base c'est quand même une utilisation attendue par des professionnels, donc...
Quand vous dites qu'il se reconnaît un produit Wesco par rapport aux autres, alors c'est par rapport à quoi? À la qualité, à la couleur? On se souvient que vous aviez toujours beaucoup de couleurs.
Oui. Il y a d'ailleurs, justement, avec la crèche qu'on vient d'ouvrir à Bressuire et qu'on a entièrement équipée, bon, il y a une harmonie puisque tous les produits en couleur vont bien les uns avec les autres. C'est assez joli à regarder. On fait très attention à ça. D'ailleurs, à l'époque, c'est un métier qui était assez conservateur. On bougeait peu les produits, mais depuis un certain temps, tous les 3 ans, 3-4 ans, on est obligé de revoir nos codes couleurs, puisque aujourd'hui ça a une influence aussi sur ce marché-là.
La forme des objets aussi, forme assez arrondie, assez. Enfin, non, je sais pas, on a le sentiment, la touche Wesco, c'est des formes
douces. Voilà. Alors, on avait des couleurs plus dures à l'origine, et puis avec le temps, les couleurs se sont atténuées, on est parti vers des coloris très doux. Aujourd'hui, c'est un peu la tendance. Peut-être que des coloris plus vifs vont revenir, mais ça, c'est le cycle de la mode, justement, et qu'il faut qu'on revoie en permanence. C'est pas toujours évident, parce que les logisticiens n'aiment pas trop qu'on change les couleurs, hein, puisque c'est assez compliqué quand vous avez une grosse collection, comme je le disais, 18 000 produits, et que vous décidez de changer une couleur ou un matériau, c'est pas simple. Mais je crois que c'est aussi une de nos forces. Alors c'est le hasard, hein. Moi, c'est le hasard de la vie qui a fait que bon, je suis devenu designer, on a développé nos produits, mais aujourd'hui c'est ce qui fait aussi notre succès, parce que beaucoup de nos confrères sont des gens qui ne vendent que des produits de négoce, qui n'ont pas de création propre. Et avec des grands, avec l'arrivée d'Internet et les grandes maisons comme Amazon, par exemple, tous ceux qui font du pur négoce ont un peu plus de mal à sortir du lot, puisqu'ils n'ont pas de collection propre. Ils se font manger par tous ces grands.
Et qu'il faut sans doute être très réactif.
Très réactif. Ben justement, au début, on a souvent été copiés à travers le monde. J'ai retrouvé, même sur un stand en Chine, la photo de mes enfants qu'ils avaient récupérée dans le catalogue Wesco et qu'ils avaient mis en déco sur leur stand. Mais donc, pendant longtemps, on a eu beaucoup de procès, des choses comme ça. Et puis aujourd'hui, depuis maintenant, on essaye d'être toujours un leader sur notre marché, d'être en avance. Je fais beaucoup moins de procès. J'essaye toujours de rester avec quelques longueurs d'avance sur les produits et sur l'esthétique des produits.
Cet aspect de la contrefaçon, entre guillemets, c'est pas justement la justice ne parvient pas à le régler, il faut rester toujours une fuite en avant pour arriver à le régler
Oh bah si, la justice, elle arrive à... Enfin, les grands gagnants dans un procès, c'est les avocats. Hein. Donc on arrive à bloquer quand même quelques concurrents. Moi, je me base. Enfin, quand il y a vraiment une contrefaçon forte, je me bats quand c'est sur le marché européen. Après, si c'est les Chinois qui nous copient, moi je me lance pas en Chine. C'est tellement vaste et puis c'est loin et ça représente quand même assez peu dans notre activité.
Il y a une protection donc du coup de vos créations?
Ah oui, tout est protégé. Oui, les produits sont protégés des pots de modèle, à l'INPI. Quand on le peut, on fait un brevet. Et donc ça c'est avant chaque sortie de catalogue, tous les produits sont protégés. Même les dessins sont tamponnés pour avoir une antériorité encore plus importante par un notaire.
Ce qui veut dire qu'il y a une veille sans cesse de la part d'un service chez vous?
Ah oui, on a une veille concurrentielle déjà, même pour les prix. Hein. Donc on a une veille permanente. Et puis on a comme je vous dis, cette richesse d'avoir accès à toute la planète de la petite enfance, puisque comme Wesco vend dans une quarantaine de pays, on a accès à toutes ces informations depuis longtemps.
Est-ce que ces produits, ils ont connu des révolutions ou des évolutions? Est-ce que ce genre de produit où d'un coup on a une technologie ou un progrès, une nouvelle connaissance scientifique qui apporte quelque chose dans la pédagogie ou dans l'accompagnement des enfants?
Alors parfois, effectivement, il y a des nouveaux matériaux qui apparaissent et puis qui nous permettent de développer des nouveaux produits. Il y a aussi, nous on est beaucoup sous l'influence des normes. C'est-à-dire que les enfants, surtout dans un milieu scolaire ou préscolaire, les parents, quand ils mettent leurs enfants à garder, ils ne veulent pas qu'il y ait de problème. Donc les normes de sécurité sont très très importantes et ces évolutions-là, par exemple, nous imposent de revoir nos produits assez régulièrement.
Alors du coup, est-ce que ça veut dire que vous vous êtes positionné d'autant plus de façon qualitative ou que ça vous a finalement obligé à des contraintes compliquées?
Ben, moi, ça a été un choix. J'ai toujours voulu avoir des produits de qualité. Je ne veux pas avoir que les gens aient des problèmes avec les produits Wesco. Donc on essaye toujours, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, hein. Parfois il y en a. Mais on essaye de faire vraiment des produits de qualité. Il faut quand même savoir que selon la DGCCRF, à peu près 30%, peut-être plus, même des jouets qui sont vendus pendant la période de Noël ne répondent pas aux normes de sécurité. Sont vendus comme ça. Alors il y a des contrôles, hein, il y a des amendes, mais bon, ça fait partie du...
Ouais, d'une contrainte, vous avez fait une vraie valeur.
Moi, j'ai toujours refusé, donc il faut que tous les produits Wesco... Un produit Wesco ne peut rentrer au catalogue que s'il a été validé, dessiné ou proposé par le chef produit ou les designers, validé par les achats par rapport à son prix, évidemment, et par le service qualité. Si ces trois services ne valident pas le produit, n'entre pas en collection.
1800 références dans votre catalogue. Ça a été aussi une de vos forces de frappe, ça, la vente par correspondance. On n'en a pas encore parlé, mais c'est ce qui a fait aussi votre notoriété et rapidement.
Ah, il y a un peu plus de produits, parce qu'il y en a 18 000.
Qu'est-ce que j'ai
pas
dit?
1800.
Oh, pardon, 18 000,
mais
évidemment. Pardon.
Mais 1800, c'est bien aussi, hein, parce que plus on en a, plus c'est compliqué. Donc la vente par correspondance, oui, ça a été... pareil, aussi, dès le début, ils ont fait un petit catalogue. Il y avait trois pages, je l'ai toujours, trois, quatre pages. Ce petit catalogue était imprimé en monochrome, dans une machine où on tournait à la manivelle. Donc c'était... voilà, aujourd'hui, il a plus de 1000 pages en 9 versions différentes, puisque en Europe, nous avons des langues différentes et parfois des monnaies différentes encore. Oui. Hein, tout le monde n'est pas à l'euro. Donc il faut imprimer 9 versions et ça nous a permis de toucher. Alors, ce qui fait que quand Internet est arrivé, nous on était déjà prêts, parce que la vente par correspondance Internet, c'est la même chose, sauf que le média est différent.
Oui, vous avez calqué votre catalogue.
Voilà. Internet a un avantage par rapport au papier, déjà son coût, hein, il est quand même moins onéreux, et puis il peut évoluer en permanence, alors que le papier, on est figé pendant, puisqu'on l'édite une fois par an seulement, donc pendant 12 mois.
Alors, vous avez des enfants qui viennent chez vous, j'allais dire en studio, une équipe de photographes. Comment ça fonctionne? On aimerait rentrer dans votre tête pour voir un produit depuis sa création jusqu'à son aboutissement.
Alors, donc, les produits, effectivement, sont créés par donc, les designers et, pour les produits de négoce, par les chefs produits sélectionnés. Puis, ils partent après en sélection, comme je vous l'ai dit, validés par la service qualité, par les achats, etc. Et après, aboutissent dans notre studio photo, puisqu'on a un studio photo en interne à Wesco. Un grand studio photo sur lequel on fait photo et vidéo maintenant, puisqu'avec Internet, ça nous permet d'aller plus loin. Et une fois ces photos prises, elles partent dans la partie chromie, puisqu'on retouche quand même si les photos sont très bien dès le début, on retouche parfois les couleurs, les lumières. Et les graphistes, après, reprennent tous ces visuels. Graphiste pour le catalogue papier et web designer pour le site internet, intègre les textes écrits par les chefs produits et les prix gérés par le service tarif et on imprime le catalogue à l'extérieur.
Les retombées commerciales aujourd'hui, vous arrivez à mesurer si elles viennent davantage du catalogue ou d'internet finalement?
Alors Internet aujourd'hui, et surtout depuis le Covid où il y a eu une forte accélération, c'est la moitié de nos commandes.
Ah oui, ça a été un vrai marqueur là, cette période du Covid.
Oui, pour Internet en tout cas, ça a été un vrai marqueur. ça n'est pas retombé depuis, même je dirais que ça s'amplifie. Donc la moitié des commandes passent par maintenant Internet.
Alors ça, c'était en amont des commandes. Qui vous commande déjà ? Qui sont vos clients ? Et puis, comment est organisée après la suite de l'approvisionnement du produit une fois qu'il est commandé ?
Donc, alors nos clients, ce sont d'origine et toujours aujourd'hui, les professionnels de la petite enfance. Donc, on a plusieurs types de clients, si vous voulez. Nous, on les appelle, il y a les clients utilisateurs, qui sont les gens dans les crèches, les directrices de crèches, les péricultrices, les institutrices, etc., etc. Et puis, il y a les clients donneurs d'ordre, parce que souvent, les crèches sont liées à la municipalité. Donc, ce sont les acheteurs des municipalités qui... eux vont acheter le matériel. Donc, c'est deux profils assez différents, évidemment.
Et donc, il faut se faire connaître déjà auprès de ces utilisateurs. Donc, vous faites comme là, vous avez une notoriété qui vous permet peut-être de pas forcément trop aller au-devant aujourd'hui, mais est-ce qu'il faut de temps en temps quand même réamorcer la pompe en présentant des nouveautés directement in situ, dans des lieux, des salons ou des crèches pour montrer justement les évolutions ?
Alors, le premier ambassadeur, c'est le catalogue qui est envoyé... dans toutes les municipalités, dans toutes les écoles, et puis ensuite effectivement des salons. On a une équipe d'une dizaine de commerciaux en France, et puis après dans chaque État européen.
Le grand public aujourd'hui peut aussi commander un peu chez vous ?
Oui, depuis Internet, les parents en fait voient nos produits dans les établissements nous sollicitent de plus en plus. Alors c'est vrai qu'on n'a pas une catégorie de produits qui est forcément toujours adaptée à un particulier, puisque comme je vous disais, on essaye d'avoir des produits de très haute qualité. Et puis dans une école ou dans une crèche, vous avez une dizaine d'enfants qui vont utiliser le produit. Alors qu'à la maison, ça va être deux ou trois.
Oui, ça peut prendre beaucoup de place dans une chambre d'enfant, peut-être.
De la place, puis surtout, c'est la résistance du produit, je veux dire presque surqualitative par rapport aux particuliers, mais on a quand même une partie de notre collection qui est très intéressante pour les particuliers, et on a de plus en plus de parents qui nous commandent des produits. On a fait une mini-sélection dans notre site, et donc il y a une rubrique pour les familles avec des produits un peu plus adaptés pour eux.
Les adaptations, elles sont aussi sociétales par rapport aux couleurs. Le rose pour les filles, on s'adapte, on fait peut-être un petit peu moins maintenant aujourd'hui. Est-ce que ça, vous le ressentez dans les commandes ? Est-ce qu'on essaie d'avoir des choses un peu moins genrées dans ce que vous produisez ?
Alors, bon, c'est-à-dire que nous, on a tout. Enfin, moi, quand je suis arrivé, j'avais déjà cette philosophie en tête. Et donc, on a été une des premières entreprises déjà à essayer de ne pas genrer les produits. Si vous reprenez les très vieux catalogue Wesco, vous voyez rarement des petites filles à faire le repassage et des garçons à jouer aux voitures, c'est même plutôt parfois l'inverse. Et puis on a aussi été une des premières entreprises, et peut-être même toujours une des seules en France, où on propose certaines catégories de produits en différentes couleurs de peau, pour représenter toutes les tendances qu'il y a dans nos pays, et ce depuis très longtemps.
Donc, vous étiez assez révolutionnaire.
Oui, alors aujourd'hui ça devient presque banal. Ça devient presque banal, mais nous on a été assez précurseurs là-dessus. Toutes nos poupées, nos marionnettes sont différentes, représentent en fait la multitude d'humains qui sont aujourd'hui dans nos sociétés. Et ça a toujours été, comme le genre par exemple, on n'a jamais mis en avant un genre ni du bleu ou du rose pour les filles. Non,
et ça a choqué une époque, au tout début?
Alors, je sais pas si ça a choqué, mais nous, on l'a toujours fait.
Et ça n'amenait pas à des critiques ?
Non, mais on est même... nos clients sont même très, très exigeants avec nous, puisqu'on vend des familles, on va dire, multi-ethniques, on nous dit... j'ai reçu un courrier en disant, oui, mais alors, quand une famille est constituée de deux papas ou de deux mamans, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, là, ça devient très compliqué à gérer tous les lots, donc on est obligé de vendre les objets à l'unité, puis que les gens puissent composer leur famille. Donc on en est rendu là. C'est-à-dire que nos clients ont l'habitude avec Wesco de ce genre de proposition, mais sont vraiment vont plus loin encore aujourd'hui que ce qu'on peut leur proposer.
Tout comme votre marque de fabrique aujourd'hui, c'est aussi de proposer du jeu inclusif. Vous faites attention à cela?
Ça, ça a été. Alors ça, justement, on parlait d'évolution depuis quelques années. Moi, quand je suis arrivé, moi, j'ai eu un petit problème de santé il y a quelques années, donc j'ai des vis dans le dos pour dire les choses telles qu'elles sont. Et donc j'ai vécu dans le milieu hospitalier pendant pas mal de temps. Et quand je suis arrivé à Wesco, une des premières choses que j'ai fait, j'ai créé un catalogue pour. J'ai fait ma thèse dans le design pour un produit d'ailleurs qui permettait d'intégrer des enfants atteints de handicap parmi les enfants non handicapés. Et donc j'ai créé un catalogue qui s'appelait Westform à l'époque, qui était une collection déjà pour du matériel de rééducation pour les enfants handicapés et aussi pour les adultes. Finalement, on a arrêté il y a quelque temps ce média et on l'a intégré exclusivement pour les enfants dans notre collection. Et aujourd'hui, on a toute une catégorie de produits pour l'inclusion justement d'enfants atteints de différents dysfonctionnements, dyslexie, dysphasie, etc., etc. On a plein de produits aujourd'hui qui permettent d'intégrer des enfants atteints d'un handicap dans le milieu scolaire parmi les autres enfants.
Je reviens à ma question de tout à l'heure. Ces produits, ils sont fabriqués où ? Ils sont fabriqués en France, ils sont fabriqués à l'étranger et ils sont distribués comment ? Enfin, c'est 18 000 références, forcément c'est compliqué à gérer. Vous n'avez pas un entrepôt comme d'autres marques connues, gigantesques, je veux dire.
Il y a du stock quand même.
Alors je ne sais pas s'il est... Alors, 18 000 produits effectivement, mais on a quand même des entrepôts assez grands. D'ailleurs on a grandi actuellement puisqu'on va avoir un nouvel entrepôt de 5 000 m² sur 14 mètres de haut, qui va venir porter notre surface logistique de Cerizay aux alentours de 20 000 m². Le stock est quand même assez important, parce qu'en vente par correspondance, vous êtes obligé d'avoir les produits immédiatement.
Le consommateur n'attend plus.
Non, il n'attend plus, surtout pour les petits produits. Du loisir créatif, il faut le livrer. Donc moi, le projet qu'on a depuis longtemps, et qu'on réussit pas tout le temps, mais dont on s'approche le plus possible, c'est que toute commande qui est arrivée le jour A doit être expédiée de Wesco le jour B. Donc il faut du stock permanent. Donc on a quand même un gros stock.
Il est intégralement en Cerizay, ce stock
Alors il va l'être du coup maintenant. Mmh. Il était en partie en Vendée et maintenant il va être rapatrié à Cerizay avec la construction de ce nouvel entrepôt qui démarre dans 15 jours. Et donc, vous parliez des produits, l'origine des produits, pour les produits de marque Wesco, créés par Wesco, l'essentiel est fait en France, et on va dire même 70% est fait en Europe après. Pour les produits de négoce, malheureusement, ils viennent de partout. Et je ne peux pas maîtriser la source, même si on essaye de faire attention à ça maintenant et de privilégier en tout cas les fournisseurs qui produisent en France et en tout cas en Europe.
Alors justement, vous parliez de cet aspect qualitatif, puisque ce sont des enfants qui sont les premiers utilisateurs. Est-ce qu'on peut... Alors j'imagine qu'il y a encore beaucoup de plastique forcément dans vos réalisations. Incontournable ou pas ? Ou est-ce que ça aussi c'est une évolution à venir ?
Il y a du plastique effectivement. En tout cas, il y a pratiquement plus de plastique à usage unique, puisque ça fait longtemps aussi que je me bats pour supprimer tous les emballages plastiques qui ne servent à rien. Donc on les voit souvent en magasin parce qu'eux ils sont obligés d'exposer les produits, mais nous en vente par correspondance on n'a aucune utilité à avoir des emballages plastiques, donc tout ça c'est déjà pas mal supprimé. Après on travaille depuis longtemps sur évidemment enlever de nos plastiques les matières qui sont dites sensibles, les perturbateurs endocriniens, etc., comme les phtalates. Donc, et puis on travaille sur des nouveaux plastiques qui sont moins nocifs, entre guillemets, ou qui sont recyclés ou recyclables. Et effectivement, il y a quand même une tendance, depuis ces dernières années, à partir vers des produits en bois. Le bois reprend énormément de place dans les produits et dans les nouvelles créations de Wesco. Il y a aussi des évolutions, on parlait des évolutions de normes, par exemple, à partir de 2024, on ne peut, normalement, on ne vend plus d'assiettes de verre en plastique dans le milieu scolaire. Donc là, on est en train de développer des nouvelles collections depuis plusieurs années, en revenir au métal ou au verre, tout simplement.
Les unités de stockage, on en a parlé. Il y a aussi une unité de production, donc un gros investissement, peut-on imaginer, sur le site de Cerizay.
Alors, oui, actuellement, il y a une unité de production qui est en construction de l'autre côté de la route, là, dans nos terrains en face, qui est un agrandissement d'un ancien bâtiment de Liège, hein, qui s'appelait SVE. Et c'est un atelier de confection pour les, comme par exemple les blocs de motricité dont on parlait tout à l'heure. Actuellement, l'équipe est déjà en cours de production, mais on loue un bâtiment dans l'ex-Liège. Et puis, dès que ce bâtiment-là va être fini vers le mois de septembre, l'équipe va migrer dans ce nouveau bâtiment avec un stock. Et à terme, je pense, une vingtaine de personnes.
Justement, les effectifs de Wesco, ils sont répartis comment géographiquement et dans les différents services, design, recherche, production, ainsi de suite.
Vente.
Donc oui, on a beaucoup de métiers différents puisqu'on conçoit on va de la conception de nos produits jusqu'à leur vente. Donc on a tous les profils qu'on peut trouver dans ces différents secteurs. Donc des designers, des marketing, des logisticiens, de la production, des commerciaux, informaticiens, comptables, etc. Il y a à peu près 130 personnes sur les sites de Cerizay et 230-240 personnes en tout si on compte les agences en Europe et puis ceux qui sont dans les filiales dont on a parlé tout à l'heure.
Les investissements, ils priment, j'allais dire sans cesse chez vous. Est-ce qu'il y a une philosophie, Bertrand Vigneron, est-ce que le Covid, où vous avez peut-être pris le temps de vous poser, vous a fait revenir sur certaines priorités? Comment est-ce que vous avez vécu tout cela, vous?
Non, mais on est passé à travers les crises toutes ces dernières années, puisqu'on a eu quand même la crise de 2009-2008, crise économique, ensuite il y a eu le Covid, maintenant il y a cette guerre proche de nos portes en Ukraine. On fait face, et puis moi j'ai toujours plein d'idées, alors parfois je ralentis évidemment. Par exemple, la crise de 2009 a fait que j'ai dit on arrête d'agrandir les entrepôts logistiques et on sous-traite le stock. Maintenant, je fais l'inverse, puisqu'on est rendu à un niveau de stock qui nous permet de tout ramener à Cerizay. Mais voilà, il y a des crises qui, effectivement, influencent les décisions des chefs d'entreprise. Alors, c'est très anxiogène. C'est vrai qu'aujourd'hui, si vous me posez la question où on sera à Wesco dans 10 ans, je ne sais plus répondre à ce genre de questions.
Oui. Vous ne vous y risquez même pas.
Ah non, parce que là, en fait, ces derniers temps, on a les surprises sortent d'année en année. Donc, on ne sait plus vraiment où on va. Moi, je sais que j'ai engagé aussi l'entreprise depuis assez longtemps sur une politique RSE qu'on essaye de faire de plus en plus exigeante, où on fait attention, donc on parlait du plastique tout à l'heure, mais aussi les locaux aussi, qu'on a essayé pour que les gens soient au mieux dans des locaux vraiment
agréable.
Bien agréable et bien pensé. Là, j'ai un nouveau projet qui va aussi sortir de terre. Bon, c'est un truc. C'est en fait, je pensais à faire des bureaux, mais à l'extérieur.
C'est-à-dire
qu'il y a, je vais casser tout le parking qu'il y a devant Wesco, parce que je suis pas un concessionnaire automobile, donc j'en ai marre d'arriver dans mon entreprise et de voir toutes ces voitures. Et donc je réarbore tout le terrain, replante des arbres, etc. Et puis on aménage tout ce terrain avec des mobiliers qu'on va faire avec une société certainement locale qui fait des mobiliers avec des récupérations de morceaux de fenêtres. Et donc il y a tout un projet où il y aura un petit préau, etc. Et les gens pourront soit faire des pauses, soit travailler, mais dehors.
On pourra choisir d'aller bosser dans son bureau à l'extérieur.
On pourra, voilà, il y aura la Wi-Fi dans les arbres. Donc on pourra travailler, évidemment les jours de beau temps, hein, plutôt. Donc on va dire la moitié de l'année, les gens pourront... D'ailleurs déjà actuellement, les gens à Wesco se pose. Moi, j'ai essayé de leur expliquer un bureau, c'est pas forcément un lieu où on vient toujours s'asseoir.
Voilà.
Donc en fait, ils se voient à l'endroit qui leur semble le plus approprié dans l'entreprise. Donc Parce que ça, c'est jamais réellement où ils sont. Il faudrait que je mette des traceurs parce que...
C'est la touche de l'entreprise familiale un peu dans l'esprit, c'est-à-dire que on est sur quelque chose qui prend en compte l'environnement global de la société, des salariés, le bien-être notamment, etc. C'est quelque chose aussi qui est dans l'ADN un peu des chefs d'entreprise du Bocage Bressuire, on a l'impression.
Bah oui, de plus en plus. Et puis de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui ne font pas attention à ça, le bien-être de leurs employés, moi je pense qu'ils passeront pas
les prochaines décennies. Mais
donc c'est comme ça. Bon, chez nous, ça a toujours été, puisque en fait, moi, ça a été dès le début. C'est quand on est venu, donc là où on est à Cerizay. Bon, c'est Cerizay, donc c'est pas toujours évident de convaincre un Lyonnais, un Parisien, etc., de venir travailler chez nous. Et donc, je me suis dit, il faut faire des locaux très agréables. Pour les convaincre de rester chez nous, dans nos petits villages, à la campagne. Et puis, après, j'ai fait un voyage avec le réseau Entreprendre à San Francisco, où j'ai pu aller visiter, alors ça c'était il y a longtemps, plus de 15 ans, la Silicon Valley et certaines entreprises qu'on connaît tous aujourd'hui. Et puis, je me suis dit, bon, bah là, il faut accélérer. Donc, j'ai initier toutes les transformations que, pour ceux qui sont venus à Wesco, ont pu voir quoi, dans les locaux. Et je pense que les gens... Wesco, c'est très simple, en fait. Il y a très peu de hiérarchie. Les gens... Moi, tout ce que je demande, c'est que je travaille avec d'abord des adultes. Hein, donc, je n'ai pas à leur donner des leçons en permanence. Je travaille avec des adultes. Et l'essentiel, c'est qu'ils fassent leur boulot correctement. Après, ils le font comme ils le veulent.
C'est une évidence aujourd'hui, quand les salariés se sentent bien au travail, et de toute façon, ils travaillent mieux. C'est un truc qu'on n'avait pas perçu.
Ils travaillent mieux et ils accueillent mieux aussi les clients. Hein, tout est plus agréable et tout est toujours plus simple quand il y a une bonne ambiance dans une entreprise et quand il y a une bonne atmosphère.
Vous avez dit tout à l'heure, vous ne savez pas ce que sera Wesco dans 10 ans. Mmh. Est-ce que vous savez ce que... Parce qu'on a vu là récemment avec le Covid, notamment un peu le monde du travail passer, faire un tête-à-queue, entre guillemets. Est-ce que vous savez ce que sera l'entreprise dans 10 ans? Est-ce que vous pensez savoir ce que sera pas forcément Wesco dans 10 ans, mais l'ambiance de travail ou l'environnement de travail dans Wesco tel que vous le rêvez, tel que vous l'imaginez dans 10 ans?
Alors c'est sûr que d'abord il y a tellement de profils d'entreprises différentes. Je dirais que là, si vous me parlez un peu du télétravail ou des choses comme ça, les gens travaillent comme je disais, comme ils veulent et où ils veulent, mais moi je suis pas un aficionado du télétravail, je le dis, je vais peut-être me faire mécontenter certaines personnes, mais je sais où on voit que j'ai 53 ans bientôt, mais le télétravail, je trouve, au bout d'un moment, c'est bien. Moi, si vous voulez, je le permets à Wesco, mais je le permets dans certaines circonstances pour donner une facilité à des employés qui ont besoin de rester chez eux pour X raisons, une journée ou deux, mais pas de manière définitive. Alors après, il y a des profils d'entreprise, si vous voulez. Si vous êtes une grosse entreprise administrative qui est à Paris, je comprends que le télétravail soit hyper intéressant parce que bon ben ne serait-ce que pour les loyers des bureaux et puis pour le recrutement, etc. Mais maintenant il y a tout un profil d'employés comme les ouvriers, comme les gens de la logistique qui ne peuvent pas télétravailler. Donc déjà ça me gêne parce que moi, alors justement à Wesco, j'ai essayé de, si vous êtes venu, faire les locaux pour que les gens des bureaux comme des entrepôts soient vraiment tous ensemble. Et j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ce concept là qu'on disait autrefois col blanc, col bleu, ça m'a toujours un peu énervé. Donc voilà, et là ce télétravail quelque part, c'est encore une fois, c'est ben, voilà, il y a des profils qui peuvent y accéder et d'autres qui ne peuvent pas. Alors ça me gêne un petit peu, moi, d'un point de vue équité.
Et au-delà du télétravail, est-ce que vous pensez qu'il y a des évolutions dans le monde du travail que vous surveillez, on va dire, du coin de l'œil en disant tiens, ça c'est intéressant?
Moi je crois que au-delà du télétravail, c'est plus les gens qui sont c'est un mot anglais, en freelance, qui vont qui aussi vont prendre de l'ampleur, des gens qui sont auto-entrepreneurs et qui proposent leurs services à différentes entreprises. Moi j'en ai déjà des profils comme ça, j'ai un photographe et puis un chromiste qui travaille en indépendant et qui ne travaille pas que pour Wesco mais qui qui vendent leurs services à l'entreprise en fonction de ses besoins. Et ça, c'est des choses qui vont évoluer entre le télétravail, les gens en freelance, enfin, des gens qui sont à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Ça va certainement se développer, oui.
18 000, je dis bien, produits dans votre catalogue, Bertrand Vigneron. On vous a écouté nous expliquer les différentes phases de production d'un produit depuis sa création jusqu'à sa vente, vos différentes unités, ici notamment avec ce siège à Cerezay, et on en était au bien-être au travail. Aujourd'hui, on le disait, vous n'avez plus le choix. Le télétravail, vous n'êtes pas forcément pour une question d'équité, dites-vous. Est-ce que du coup, c'est pas défavoriser les gens du bureau ?
Ah, j'autorise le télétravail, mais je ne l'ai pas institutionnalisé. C'est-à-dire, je ne l'ai pas dit, désormais, il y aura 2 jours de télétravail par semaine.
Mais pour le confort d'un salarié, vous êtes prêt à le faire ?
Ah oui, mais ils le font, avec autorisation évidemment de leurs responsables pour l'organisation de l'équipe. Après, on l'a vécu avec le Covid, hein, où tout le monde est parti chez soi, mais c'est aussi, d'un point de vue informatique, c'est assez compliqué. On est attaqué de plus en plus. Nous, on a des systèmes de sécurité qu'il faut accroître chaque année un peu plus. Mais,
ouais, ça, c'était une vraie appréhension.
Et donc, quand vous avez du télétravail, vous avez des gens chez eux et vous ne maîtrisez plus rien. C'est-à-dire que ça devient des vrais passoires, justement, puisque vous ne savez pas qui va utiliser l'ordinateur. Hein. L'enfant peut arriver et l'utiliser, ou il peut y avoir une clé USB de l'extérieur qui vient. On contrôle beaucoup moins la sécurité informatique. Donc, il y a plein de positifs dans le télétravail, et il y a aussi, tout n'est pas positif. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas institutionnalisé, mais je ne suis pas contre le télétravail.
L'entreprise est devenue donc un acteur majeur au niveau économique, déjà au niveau de Cerezay, par le rayonnement avec le nombre d'emplois. Comment vous positionnez-vous en tant qu'acteur aussi dans la ville, c'est-à-dire dans l'accompagnement des associations, etc. Est-ce que Wesco a vocation à donner des coups de pouce au milieu associatif, etc. On sait que les entreprises ont ce rôle-là aussi pour la vie locale, une fibre, ouais.
On le fait depuis longtemps, et puis on a accéléré, c'est pareil, il y a une dizaine d'années, j'ai initié la création d'une fondation, c'est-à-dire que une fondation qui est destinée au bien-être des enfants. Donc c'est vrai que nos aides, généralement, elles se focalisent sur les enfants, essentiellement. Donc dès qu'il y a des porteurs de projets qui viennent à l'entreprise ou qui nous envoient leur demande et que le sujet concerne les enfants, c'est étudié par les équipes qui s'occupent de la fondation Wesco, et il y a des fonds qui sont versés à cette fondation pour mettre en place ces projets-là. Donc il y en a plein pour apprendre les mathématiques ou la lecture à des enfants défavorisés, ou construire une ludothèque ou je ne sais quoi. Enfin, il y a énormément de projets différents.
Le monde d'après, dont on a beaucoup parlé après le Covid, aujourd'hui il est loin. Est-ce que vous aviez imaginé qu'il pourrait y avoir des changements percutants qui correspondent peut-être plus à une certaine philosophie, ou finalement vous étiez déjà dans un chemin qui vous allait plutôt bien ?
On évolue. Enfin, moi, je ne m'attendais pas du tout à vivre tout ce qu'on a vécu depuis une dizaine d'années quand même. Là, je pense que peu de monde aurait pu imaginer qu'on allait avoir une pandémie et puis ensuite même une guerre en Europe à nouveau. Donc ça fait évoluer effectivement les esprits et les comportements. D'ailleurs, le Covid a changé, on a parlé du télétravail, mais a changé énormément les comportements des gens vis-à-vis du travail. Donc la prochaine crise aura certainement aussi des effets, mais il faudra qu'on s'adapte.
C'est ça, c'est toujours cette capacité d'adaptation.
Il faut être très souple,
finalement.
Très souple et très rapide. C'est une des forces justement d'une petite entreprise. Enfin, Wesco, ce n'est pas une grande entreprise, et on a encore cette capacité à bouger assez rapidement.
Mais vous êtes aussi dépendant des finances, notamment des collectivités territoriales.
Oui.
Et c'est une interrogation pour la suite, éventuellement, ça, de se dire à un moment, peut-être que des coups de frein vont nous être un petit peu préjudiciables.
On en a eu. On a eu des coups de frein, comme je disais, en 2009, et puis même encore aujourd'hui. Alors, pas forcément en France. La France, c'est un pays assez stable. Hein. On traverse les crises sans trop bouger les budgets, si je puis dire. Mais par contre, dans les autres pays européens, on a des coups de frein assez réguliers. Là, actuellement, on a l'Irlande et puis l'Angleterre. Alors, l'Angleterre, ça a été une catastrophe depuis le Brexit. Mais voilà, on est obligé de s'adapter. Alors là, la chance ou du moins la force qu'on a, c'est qu'on a quand même beaucoup de clients et que lorsque certains baissent, d'autres montent, ça équilibre à peu près, on arrive à se maintenir. Mais effectivement, les finances publiques sont importantes pour nous. Donc, à partir du moment où les budgets baissent, on est directement impacté. Sachant que nous, enfin, on vend des produits et le produit, c'est pas forcément c'est 10% du budget d'une crèche. Hein. C'est essentiellement l'immobilier et puis les salaires qui sont importants dans un établissement.
On n'a pas souligné justement votre chiffre d'affaires.
Ah oui, c'est parce que j'en parle rarement, bon, ça n'a pas une grande importance, mais on va dire que Wesco fait un peu plus de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Est-ce qu'il y a, Bertrand Vigneron, un jeu, un produit que vous rêveriez d'inventer? Est-ce qu'il y a un petit truc, puisque vous êtes de formation design, que vous rêveriez d'inventer?
Bah, c'est difficile à dire parce que j'ai toujours plein d'idées.
Ah, donc, voilà.
Non, ça vient comme ça parfois, des déclics ou des évolutions sociétales ou des besoins dans le milieu scolaire et puis tout d'un coup on a plein d'idées et puis bon, j'ai une équipe de designers aussi qui amène plein de...
Est-ce qu'il y a des produits que vous voyez chez d'autres en disant « mince, ah, j'aurais dû y penser ».
Ah oui, ça m'arrive très souvent et ça m'énerve d'ailleurs. Je vais toujours voir les designers en leur disant que ça, c'est normalement, c'était à nous d'avoir cette idée-là. Donc ça me met toujours en colère que mes confrères aient de meilleures idées que Wesco. Mais c'est aussi une richesse justement de voir, comme je vous disais, à l'international, toutes ces sociétés, puisque ça donne aussi des idées quand on voit les Coréens, la façon dont ils abordent l'accueil de l'enfance ou les Canadiens, ça vous enrichit, ça vous donne des idées.
Justement, oui. Est-ce qu'il y a dans le monde des approches différentes de l'enfant, de son apprentissage, qui vous enrichissent? Est-ce qu'il y a une philosophie de l'enfance asiatique, sud-américaine ou autre qu'on peut distinguer dans le monde?
Il y a des nuances, il y a des différences importantes entre déjà les pays européens. C'est pas toujours évident de trouver une harmonie, même si on est quand même assez proches les uns des autres. Mais entre un Italien et un Allemand, un Suédois, c'est pas tout à fait les mêmes recherches de produits ou d'esthétique même. Hein. Donc c'est pas toujours évident ça. C'est vrai qu'on a quand même une marque, on est une entreprise française et on vend pas les mêmes produits dans chaque État européen. Après, il y a les Canadiens, par exemple, sont très très en avance sur l'inclusion. On en parlait tout à l'heure, le travail autour de l'autisme chez l'enfant. Il y a beaucoup de recherches qui sont assez précurseurs. D'ailleurs, souvent des réformes de la petite enfance viennent du Canada. Et puis après, les Asiatiques ont aussi entre un Japonais, on parlait tout à l'heure, un Coréen, un Chinois aussi, c'est des approches totalement différentes.
Hein. C'est là que vous avez un rôle quand même important, parce que vous intervenez à la source finalement dans le parcours de l'être humain, et c'est ce qui façonne la société de demain aussi, d'engager cette pluralité des profils dans le jeu et dans la prise en compte des espaces communs, dans les espaces collectifs de crèche, etc. Ça, c'est quand même, ça façonne encore une fois la société de demain. Ça doit être assez fascinant ou grisant, je sais pas.
Oui, c'est ça. On dit que les 1000 premiers jours de l'enfant vont impacter sa vie entière pratiquement. Donc effectivement, c'est très important et on voudrait que tous les enfants aient les mêmes chances dans la vie. Mais malheureusement, bon, c'est pas toujours le cas. Mais enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de faire et à travers la fondation, à travers tout ça, d'aider les enfants.
Wesco, c'est une entreprise familiale qui le restera. Alors, il y a sans la pression des actionnaires. Comment vous voyez l'avenir?
Alors, nous, on n'a pas une grosse pression des actionnaires, hein, mais puisqu'on est une entreprise familiale, et donc c'est vrai que ça aussi, c'est...
C'est pour ça que je vous disais, sans grosse, la pression.
C'est une
personnes.
Grosse différence entre... Alors, les entreprises familiales ont leurs défauts, elles ont leurs qualités, il y a quand même moins de pression de l'actionnariat, donc les décisions sont plus simples à prendre. En tout cas, elles ne sont pas sous influence, moins d'influence des financiers, on va dire, les choses telles qu'elles sont. Maintenant, après, est-ce qu'il y aura une génération familiale après? C'est un peu tôt encore pour le dire, je ne sais pas.
Ce serait votre souhait, en tout cas?
ça dépendra de lui, si je puis dire, puisque mon fils aîné est en école de médecine, donc je pense que le problème est réglé. Après, le deuxième, ça sera son choix. Et je ne veux pas lui mettre la pression. La pression, parce que moi, je suis arrivé, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans une entreprise, il y avait 40 personnes qui n'étaient pas informatisées. Et donc, j'ai grandi. En plus, moi, j'ai connu cette entreprise avec 3 personnes. Donc, j'ai grandi avec cette entreprise. J'ai l'historique depuis le début. Et aujourd'hui, on est sur une entreprise, bon, qui reste, c'est pas une grande entreprise, mais enfin, il y a quand même 230 personnes. Vous savez, c'est plus la même.
C'est la même aventure.
Aventure, hein. Donc, ça sera vraiment son choix, sa volonté. Et, après, ben, s'il n'y a pas de succession familiale, on vendra, hein, tout simplement.
Et puis, on essaie. Les actionnaires mettront la pression.
Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y aura des. Ça peut être vendu à une entreprise familiale aussi.
Merci beaucoup, Bertrand Vigneron.
Mais de rien.